explique la valeur du mérite avec Annabelle Alouche et Nathalie Hennick. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de distinction dans leur choix que les talents et les vertus, a dit Condorcet. Et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on peut lire « Tous les citoyens étant égaux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Annabelle Alouche et Nathalie Hennick sont toutes deux sociologues. Et elles ont, l'une et l'autre, longuement réfléchi à la question du mérite. Je leur demanderai donc ce que vaut cette grande promesse énoncée par la Révolution française et si, à leurs yeux, notre République lui est fidèle. Annabelle Alouche.
Merci de commencer l'émission par une référence à la Révolution française qui paraît évidente dans l'espace public, tant la Révolution française est associée justement à la naissance d'un nouveau système de légitimation politique associé à la reconnaissance d'un talent individuel et non à la naissance. Ce qui est intéressant quand on fait un peu de sociologie historique ou d'histoire, c'est de noter à quel point finalement le mérite, ou plutôt le gouvernement par les capacités, naît bien avant la Révolution française, du moins avant la Révolution française. Richelieu parle déjà de la nécessité de choisir ses élites politico-administratives, sur la base des capacités et sur la base d'un concours. Le premier concours des grandes écoles naît avant la Révolution française. Le premier concours n'est pas celui de l'école polytechnique ni celui de l'école normale supérieure, c'est celui de l'école navale. Pour moi, le mérite et le talent naît, ou du moins ce principe de justice fondé sur le mérite naît bien avant et naît en fait de la construction des États modernes. État moderne qui, pour se développer, nécessite en fait de sélectionner ou de choisir plutôt exactement, pour prendre un terme plus précis, ses fonctionnaires sur la base des capacités et non seulement plus sur les origines.
Mais il ne s'agit pas simplement, avec la Révolution française, des fonctionnaires, c'est-à-dire que c'est un nouveau principe, comme vous le dites vous-même, de légitimité qui apparaît et à la place des privilèges et notamment celui de la naissance. Donc, La Révolution française, on peut le dire, radicalise et universalise le propos, Annabelle Alouche.
Tout à fait. Elle rend le mérite, ou elle impose le mérite comme un principe de légitimité politique et de légitimité institutionnelle, et aussi un principe organisateur des institutions, et notamment ce qui va devenir un peu plus tard le système éducatif moderne.
Mais d'un autre côté, vous écrivez, Annabelle Alouche, « Derrière le recours à une rhétorique du mérite, un peu flou, récompensant l'effort au travail, la moralité, un talent ou un don, c'est le contrôle pour une lecture inégalitaire du monde qui se joue. » Alors, c'est quoi? Est-ce que la Révolution française voulait, sous couleur de mérite, maintenir l'inégalité? Ou est-ce que nous ne savons pas être fidèles au message de la Révolution? Annabelle Alouche.
J'ai envie de vous répondre par la deuxième proposition, évidemment, mais ce qui est intéressant avec les projets éducatifs de la Révolution française, c'est qu'ils restent à titre de projet. Il y a tout un ensemble de projets concurrents, et notamment celui des Montagnards, qui vise justement à développer plus d'égalité, par exemple, en développant des pensionnats pour tous les élèves. L'idée, c'est que les inégalités relèvent des familles, et donc qu'il est du rôle de l'État de former les futurs citoyens à l'égalité, et il propose un certain nombre de suggestions qui, quand j'en parle à mes étudiants, les fait bondir. Par exemple, sortir les enfants des familles pour pouvoir qu'ils soient formés par le nouvel État à la nouvelle couleur de la République en cours de construction. Mais effectivement, je pense que le mérite est porteur de toute façon d'une forme de hiérarchie. Une société méritocratique, c'est une société hiérarchique par essence.
Nathalie Hennick.
Pour revenir à ce fameux article, je pense que sa spécificité, c'est d'introduire une dimension constitutionnelle. C'est-à-dire, c'est pas seulement la sélection effective des individus qui a été faite au mérite depuis très 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 longtemps. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y aurait pas d'éducation des enfants sans la valeur de mérite. Il y aurait pas de science sans la valeur de mérite. C'est quelque chose d'extrêmement ancien. Ce qui est nouveau avec la Révolution, c'est qu'on donne valeur constitutionnelle à la notion d'égalité en droit des citoyens. Alors, le mot droit est fondamental parce que l'égalité se décline selon différentes modalités. Il y a l'égalité des droits, et donc c'est ça qui est visé par cet article. Il y a aussi l'égalité des chances, et il y a aussi l'égalité des situations effectives. Bon, alors l'égalité des situations effectives, c'est-à-dire d'imposer une égalité de fait à tout un chacun, ça a été testé dans l'histoire, et malheureusement ça a donné un peu des catastrophes, puisque ça a été en gros le régime stalinien, le régime maoïste, le cambodgien, etc. En revanche, nous vivons, nous, sur un mélange d'égalité des droits au niveau juridique et d'égalité des chances au niveau de ce qu'exige une société démocratique, à savoir que les individus aient des chances équivalentes de pouvoir s'élever dans la société en fonction de leur capacité, de leur vertu, de leur talent, comme le disait la Constitution. Je précise d'ailleurs que le mot même de mérite n'est arrivé qu'au début du XIXe siècle. Il vient donc du latin meritum, qui veut dire récompense, et qu'il a d'une certaine façon remplacé cette notion un peu ambiguë de vertu, talent et capacité. Alors, pour ce qui est de savoir si la société démocratique post-révolutionnaire a tenu les promesses de cet article, oui, sur le plan des droits, et de plus en plus, puisque cette idée de l'égalité des droits s'est étendue au XIXe siècle à l'ensemble des citoyens, et non plus seulement aux citoyens fortunés, et au XXe siècle aux femmes pour ce qui est du droit de vote. Donc, on a de plus en plus une tendance à réaliser cette égalité des droits. Et pour ce qui est de l'égalité des chances, elle est construite plus ou moins habilement et plus ou moins efficacement par toutes sortes de dispositifs de compensation des handicaps liés à l'origine sociale, que ce soit les bourses, que ce soit les enseignements compensatoires, les renforcements pédagogiques, etc., avec une efficacité limitée due au fait qu'il y a des forces contraires qui s'opposent à cette visée d'égalité des chances, ne serait-ce que le fait que dans une compétition, tout le monde veut être gagnant et que du coup, il y a aussi des perdants, mais aussi du fait que les inégalités de revenus, de patrimoine se sont énormément accrues pour toutes sortes de raisons qu'on ne va pas développer ici. Et donc, il y a un bilan évidemment contrasté pour ce qui est de l'égalité des chances, mais la valeur du mérite me semble rester une constante, et il me semble nécessaire pour ce qui est de la visée d'égalité qu'elle reste une constante.
Et alors, en revanche, Annabelle Allouche, vous dites « Le mérite est un mode de justification des inégalités très commodes que l'on mobilise pour décrire et légitimer l'ordre social ». Qu'est-ce qui vous permet de faire un diagnostic aussi pessimiste, aussi radical, Annabelle Allouche ?
Eh bien, mes enquêtes de sociologie, dans le cadre des procédures de sélection, notamment dans les grandes écoles françaises, mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis, puisque en tant que sociologue, je ne parle que à partir de mes enquêtes de terrain, évidemment. Ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est que cette notion de mérite ou cette croyance dans un système de justification méritocratique, il ne fonctionne qu'à partir du moment où on y met les moyens. C'est-à-dire que dans une structure éducative massifiée où un très grand nombre d'élèves atteignent un niveau éducatif au niveau du baccalauréat, par exemple, ou du A-level pour parler du système britannique, il est nécessaire, en fait, de mettre les moyens financiers, matériels et en termes humains pour que le mérite soit autre chose qu'un système de justification des inégalités. En l'absence de ces moyens mis à disposition, et en particulier par les États, le mérite, en quelque sorte, perd de sa valeur et ne fait que justifier dans sa face noire, si j'ose dire, justifier les inégalités sociales.
Le mérite justifiant les inégalités sociales. D'un autre côté, l'égalité des chances, ça n'a jamais été l'égalité des résultats. On ne peut pas promettre l'égalité des résultats. Ça n'aurait strictement aucun sens. Si égalité des chances, ça veut dire qu'il y a une compétition scolaire, et dans une compétition scolaire, il y a forcément des perdants. Et les perdants, selon vous, seraient-ils toujours les enfants issus de milieux modestes, ou bien l'école permet-elle effectivement de faire apparaître et de récompenser ceux qui ont le mieux travaillé, quel que soit leur milieu d'origine?
Oui, alors, d'abord, vous avez tout à fait raison de souligner le fait que le mérite est constitutivement lié à l'inégalité. Parce que s'il y avait égalité de départ, on n'aurait pas besoin d'utiliser des critères de justice pour départager les gens. Donc, ce qu'il faut comprendre pour avoir un accès un peu clair à cette question du mérite, c'est que le mérite permet de fonder l'inégalité en justice. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre, parce que il y a toute une doxa, y compris malheureusement parmi des sociologues et des chercheurs en sciences sociales, qui consistent à considérer que la justice, c'est l'égalité, et que toute forme d'inégalité est forcément injuste. Or, les gens savent très bien, sans doute mieux que certains sociologues, qu'il y a d'autres critères de justice ou d'équité que l'égalité formelle, ou que l'égalité tout court d'ailleurs, et ces critères sont au nombre de 4, ce sont des enquêtes de psychologie sociale qui l'ont montré, c'est pas moi qui le décide. Il suffit de prendre l'exemple par exemple d'un naufrage, hein, avec un bateau qui coule, on peut pas faire passer tout le monde en premier sur le canot de sauvetage, et donc il faut sélectionner ceux qui vont passer en premier. Il y a 4 façons de le faire, soit par le rang, donc on va faire passer en premier le souverain, le chef, l'aîné si on utilise le droit d'aînesse, etc., ou bien le critère du besoin, les plus faibles vont être mis en premier, et c'est le fameux adage « les femmes et les enfants d'abord », qui reflète à la fois le besoin des personnes parce qu'elles ont besoin d'aide, mais aussi le besoin de la société qui a besoin de forces reproductives, il faut toujours penser à ça. Le troisième critère, c'est le critère donc du mérite, et on va y revenir parce que c'est un terme qu'il faut un peu déplier pour comprendre ce qu'il signifie, donc on fera passer en premier les grands savants, les grands artistes, les grands sportifs, etc. Et puis le quatrième critère, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les 3 premiers, c'est la chance, on va tirer au sort, c'est le hasard. Et ce sont ces 4 grands critères de choix dans une situation d'inégalité qui fondent le sentiment pour les gens d'une justice. Donc, encore une fois, déprenons-nous de l'idée que l'inégalité serait forcément injuste. Elle peut être juste à certaines conditions très précises que j'ai essayé de montrer dans mon livre sur la valeur des personnes, puisque nos attributions de valeur aux personnes répondent à des contraintes très fortes de justesse et de justice, et notamment ces contraintes liées à la bonne utilisation, selon les contextes, du bon critère de justice.
Alors justement, Annabelle Alouche.
Je voudrais revenir, sur la question de la compétition, la mise en concurrence. Ce qui est intéressant avec le mérite tel qu'il est déplié dans le cadre d'épreuves comme Parcoursup, sur lesquelles j'ai aussi travaillé. Donc Parcoursup est un algorithme évidemment, mais qui correspond à un certain nombre de réformes à la fois du lycée, du baccalauréat et de l'accès dans l'enseignement supérieur, qui est lié en fait à la nécessité, ou du moins à la nécessité telle qu'elle est dépliée par le gouvernement, de mettre en concurrence tous les individus. Chaque individu est en concurrence l'un contre l'autre, en fait, en quelque sorte, pour avoir une institution. La question que je me pose en tant que sociologue, c'est: a-t-on nécessairement besoin d'être mis en concurrence les uns par rapport aux autres? A-t-on nécessairement besoin, quand on a 18 ans, d'être mis en concurrence les uns avec les autres? Est-ce que la candidature en tant qu'expérience sociale est nécessaire? Pour moi, il me semble, en tant qu'enseignante-chercheuse, c'est-à-dire en tant que sociologue, mais aussi en tant qu'enseignante, devant des amphis de première année, il me semble que non.
Nathalie Hennig, et j'interviendrai, allez-y.
Il me semble que la question de la concurrence ou de la compétition est constitutive justement de la société démocratique post-révolutionnaire qui, en éliminant la sélection par le privilège, notamment le privilège de naissance, c'est-à-dire par le rang, permet une ouverture à tout un chacun qui ne peut aboutir à une sélection considérée comme juste qu'à condition de construire justement des épreuves de sélection, ces fameuses épreuves que sont les concours, les examens, etc., avec des dispositifs qui, dans la mesure du possible, essayent de neutraliser l'effet de l'origine sociale, d'où l'anonymat du concours. Le mérite en tant que valeur est une conséquence de la décision révolutionnaire, issue de la pensée des Lumières, de considérer que les individus doivent être traités à égalité et que en situation d'inégalité, pour pouvoir les sélectionner, il faut faire intervenir ce critère que nous appelons le mérite. Et donc la compétition est constitutive de la société démocratique, c'est elle qui s'oppose au privilège.
Alors justement, la question que je vous pose très clairement, Annabelle Allouche, ensuite j'interviendrai moi-même. Toute inégalité, pour vous, est-elle injuste ?
Toute inégalité est-elle injuste ? Alors moi, je ne sais pas répondre à cette question, parce que c'est une question extrêmement philosophique, mais en tant que sociologue, je me fonde toujours sur mon terrain et ce que me disent mes acteurs, et mes acteurs considèrent que l'égalité est quelque chose qui a leur préférence. Donc François Dubé parle de la passion pour l'égalité. Moi, ce que je vois, c'est que ce que me disent les acteurs, c'est qu'à la fois, et il y a des paradoxes aussi, passion pour l'égalité et aussi passion, une certaine passion pour le mérite qui est vécu, comme le dit François Dubé, comme une fiction nécessaire, c'est que pourquoi on croit en mérite ? On croit au mérite, bien qu'on ne connaît pas exactement la définition du mérite, ou du moins que cette définition évolue d'époque en époque, parce qu'on a l'impression, en fait, que dans une période de guerre en Ukraine, de crise climatique, notre propre effort va nous permettre, en fait, de contrôler notre futur, de contrôler notre environnement présent et notre futur. Mais ça, pour moi, c'est, comme le dit François Dubé, une fiction qui repose en fait sur l'idée qu'il y aurait une égalité des conditions qui n'existe pas en sociologie, évidemment.
Alors, j'interviens simplement pour dire qu'une fiction nécessaire, comme dit François Dubé, ça s'appelle une valeur. Et c'est un principe absolument constitutif qui nous permet de nous entendre, de créer un monde commun, d'être ensemble. Et ces valeurs n'ont pas à être confondues avec les faits. Et le problème, me semble-t-il, dans le type de raisonnement que produit la sociologie critique de l'éducation, dont vous êtes une des représentante, c'est la confusion entre le niveau des faits et le niveau des valeurs. Vous mettez en évidence, à juste titre, et c'est très utile, le fait que factuellement, la valeur d'égalité des chances n'est pas entièrement réalisée au niveau scolaire. Et c'est un fait, et il faut le dire, et il faut le souligner. On le sait depuis 60 ans, depuis Bourdieu et Passeron, mais bon, peu importe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un autre niveau, qui est le niveau des valeurs, c'est-à-dire de la visée que nous essayons de faire advenir. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut penser la valeur de mérite.
Annabelle Allouche, et ensuite j'interviendrai, si vous le permettez.
Bien sûr, je pense que on peut parler de valeur à titre philosophique, mais à titre sociologique, il faut toujours revenir aux actes et aux représentations des acteurs et revenir aux pratiques quotidiennes des individus. Et la valeur, le mérite, c'est quelque chose d'absolument pas abstrait. C'est quelque chose qui est investi en actes, et c'est quelque chose qui est investi en actes même si on n'est pas nécessairement capable de penser en termes de mérite ou méritocratie. Ce qui est intéressant, c'est que au début de mon livre sur le mérite, il se trouve qu'à l'époque, j'habitais dans le 15e arrondissement et juste au-dessus d'une boulangerie. Comme je suis jeune maman, j'allais souvent chercher mon pain au début de la journée, donc très tôt. Et ma boulangère, qui était aussi ma voisine, me demandait le thème de mon ouvrage. Je lui dis, en fait, c'est le mérite. Et j'ai compris dans ses yeux qu'elle n'avait pas compris ce dont je parlais. Et j'ai répondu, ou j'ai développé, mais en fait, c'est en quelque sorte travailler plus pour gagner plus. Et là, elle a compris le sujet de mon ouvrage. Et ça veut dire tout simplement que le mérite, c'est quelque chose d'absolument pas abstrait, ou un principe abstrait peut-être pour ceux qui, pour les philosophes, mais dans la structuration de notre vie quotidienne, c'est quelque chose qui doit être pensé en acte.
Ça doit être quelque chose d'impressionnant, mais le mérite... Et c'était vrai pour les enfants de boulangers, pour les boulangers depuis très longtemps, le mérite, c'était pensé comme le contraire de la cooptation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a voulu, sous le régime républicain, introduire la sélection. C'est ce que montre très bien Marie-Claire Blais dans son livre sur Charles Renouvier. Renouvier s'élève contre ces bourgeois peu amus d'une égalité qui élèverait les ouvriers à leur propre niveau, qui cherchent à pousser leur progéniture à des positions qu'elle ne peut pas toujours occuper. C'est pourquoi, dit-il, il revient à l'État d'instaurer une sélection sans complaisance ni relâchement. Anonymat des concours, disait tout à l'heure Nathalie Hennick. On a constaté, les sociologues ont constaté que, en fait, effectivement, les héritiers partaient avec un avantage sur les non-héritiers, ce que Bourdieu appelle les héritiers. Donc, ils en ont conclu que finalement, la sélection n'était rien d'autre qu'une forme de cooptation. Et les conséquences sur l'école ont été immenses. C'est-à-dire, notamment au collège et au lycée, la sélection a été quasiment bannie. Collège unique et surtout accueil des élèves les plus faibles dans les classes plus avancées et ensuite, dans un deuxième temps, la classe se règle sur les capacités des plus faibles pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Résultat, le niveau s'est effondré et c'est les non-héritiers qui ont été les principales victimes de s'effondrement, parce que pour les autres, il y a des formes de contournement, les derniers lycées d'excellence, ou bien les écoles privées. Et on est venu à cette situation où plus les inégalités se creusent sous l'effet des réformes, plus on radicalise les réformes pour combler les inégalités. C'est le cercle vicieux dans lequel, me semble-t-il, l'école s'est enfermée aujourd'hui avec cette mise en acte jusque dans l'institution de la critique du mérite. Qu'en pensez-vous, Nathalie Nick?
Alors, je pense que ce sont des types de réformes qui procèdent d'une double confusion. D'abord, c'est la confusion, j'en ai parlé un petit peu, entre les faits et les valeurs, c'est-à-dire pour vouloir modifier les faits, on essaye de modifier les critères, c'est-à-dire le type de valeurs qu'on met en œuvre pour sélectionner, et c'est un premier sophisme, une première erreur de raisonnement qui aboutit à des catastrophes très souvent. Et la deuxième confusion qu'on voit très souvent dans les travaux de sociologie de l'éducation, enfin de sociologie critique de l'éducation plutôt, c'est la confusion entre le niveau statistique et le niveau individuel. C'est-à-dire qu'au motif que statistiquement, majoritairement, la réussite scolaire serait fortement liée au milieu social, on fait comme si au niveau individuel c'était également le cas, c'est-à-dire en gros on fait comme si Albert Camus n'avait jamais existé ou Pierre Bourdieu n'avait jamais existé, qui sont le pur produit de ce qu'on appelle l'élitisme républicain. Donc c'est cette double confusion du niveau des valeurs et du niveau des faits et du niveau statistique et du niveau individuel a non seulement obéré l'intérêt, disons, d'une grande partie des conclusions de la sociologie de l'éducation, mais a aussi malheureusement produit des réformes dont vous avez dit, Alain Finkielkraut, qu'elles sont extrêmement problématiques. Je voudrais juste ajouter une chose. Quand vous dites, Annabelle Allouche, qu'il faut toujours revenir aux actes, non, je pense qu'en sociologie, nous avons aussi la possibilité, voire le devoir, de revenir aussi aux représentations, parce que les représentations mentales que nous partageons font partie de notre expérience au même titre que la réalité des faits. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes travaux sur les valeurs, c'est de montrer l'importance, la complexité, le caractère par ailleurs passionnant à étudier de ces systèmes de valeurs. Et si nous mettons de côté ces valeurs au motif qu'elles ne seraient que des mythes, que des idéologies, que des rhétoriques méritocratiques, nous ne comprenons strictement rien à l'expérience des acteurs.
Annabelle Allouche.
Évidemment, moi je travaille sur les représentations et les actes en configuration, comme le disait Norbert Elias. Évidemment, les actes s'accompagnent de représentations, mais on ne peut pas comprendre les représentations sans comprendre comment ils sont mis en acte en quelque sorte. C'est ce qu'on apprend en sociologie aux étudiants, c'est qu'on peut faire des entretiens avec pour comprendre les représentations des acteurs, mais il est aussi nécessaire de faire des observations sur le terrain pour savoir comment ils mettent en œuvre en quelque sorte leurs représentations. Je voudrais rebondir sur la question de la sélection, la disparition de la sélection, par exemple, au collège ou au lycée. Rassurez-vous, il y a beaucoup de sélection, des formes de sélection informelles, il y a des formes de sélection par les dispositifs et par le choix des disciplines. Et la réforme du bac du lycée est fondée, en fait, sur la sélection qui est de plus en plus précoce. Donc, rassurez-vous, elle existe encore.
Non, d'abord, je n'ai pas à me rassurer, à m'inquiéter, Annabelle Allouche. Je constate aujourd'hui que le baccalauréat est donné à tout le monde, à peu près à tout le monde. C'est une situation... D'ailleurs, et pourquoi ? C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire...
Parce qu'il y a d'autres formes de sélection qui existent par ailleurs, en fait, tout simplement.
Oui, mais il y a aussi l'idée que la méritocratie, d'ailleurs je crois que vous le citez, est une héritocratie. C'est le sociologue Paul Pasquali, je crois, qui s'exprime dans ces termes. Donc,
je crois que c'est Nathalie Hennig qui le cite.
Alors, c'est peut-être Nathalie Hennig.
Non, mais je le cite, hein, je ne reprends pas mon...
Donc, si vous voulez, l'hérédité continue à prévaloir, continue à faire autorité. Et dès lors que l'hérédité continue à faire autorité, c'est comme si une nouvelle déclaration des droits s'imposait. Tous les hommes naissent libres et égaux et bacheliers. Voilà un peu pour effectivement instaurer une égalité véritable. D'où d'ailleurs des conséquences effrayantes comme Parcoursup. Parce qu'il y a un moment où il faut que la sélection se fasse et elle se fait dans des conditions très opaques. Mais d'un autre côté, le mérite, Annabelle Allouche, il faut quand même le prendre en considération. La compétence et la connaissance, c'est comme ça qu'on forme des pilotes de ligne, des oncologues, des chirurgiens, et on dirait des architectes. Et franchement, heureusement, parce que si on multipliait les alternatives antidiscriminatoires au mérite, nous vivrions dans une société dangereuse, Annabelle Allouche. Et ensuite,
je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Le problème, en fait, vient du fait qu'on considère que le mérite scolaire comme une forme de mérite, qu'on ne reconnaît pas le mérite de la jeune maman, le mérite de la boulangère qui se lève tôt. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui se lèvent tôt, très tôt. Si vous allez dans le métro à 6h du matin, à 5h50 du matin, il y a beaucoup de monde dans un certain nombre de lignes du métro du nord-est de Paris. Donc, le problème, en fait, c'est que dans une société du concours, comme je le dis dans mon premier livre, ou comme je le dis aussi dans les Nouvelles Portes des Grandes Écoles, qui est mon dernier livre, on ne valorise qu'un certain type de mérite scolaire qui ne valorise que les héritiers, en fait. Et c'est ça le problème. Après, la sélection n'a pas disparu. Et juste, elle intervient à des moments différents, mais elle intervient aussi de manière précoce et dès le collège par différents dispositifs informels.
Je suis contente de vous entendre dire qu'il faudrait que le mérite soit davantage respecté. Donc, vous ne considérez pas le mérite comme une simple rhétorique méritocratique.
Si, tout
comme
à
vous
fait.
Le dites dans votre
rhétorique
livre.
Rhétorique méritocratique qui revient est socialement située, historiquement
d'accord,
située.
D'accord, mais c'est un peu contradictoire avec l'idée qu'il faudrait que le mérite soit davantage respecté, me semble-t-il. Mais je voudrais dire simplement, sur Parcoursup, le fait qu'on ait été obligé d'instaurer Parcoursup, c'est simplement parce qu'on a refusé d'instaurer la sélection scolaire à l'entrée à l'université. C'est la résultante extraordinairement complexe et problématique d'un refus d'utiliser le mérite scolaire comme mode de sélection à l'entrée à l'université. Et certains voudraient remplacer le mérite scolaire par le tirage au sort, ce qui me paraît encore plus stupide parce que le critère de la chance, qui dans certaines conditions peut être considéré comme équitable, a pour caractéristique de ne pas tenir compte des propriétés des individus, ce qui est quand même considéré comme problématique, et en plus de priver la société de compétences importantes, puisque la chance évidemment ne va pas forcément sélectionner les meilleurs. Mais je voudrais aussi revenir sur ce que vous avez dit, sur le fait que le mérite serait un principe abstrait. Ça n'est pas un principe abstrait seulement. C'est-à-dire que c'est évidemment, c'est en partie une valeur, c'est-à-dire en effet un principe abstrait de jugement des personnes, mais c'est aussi au quotidien des éléments très concrets par lesquels nous jugeons des personnes en fonction de performances qui, elles, sont concrètes, par exemple une dictée, hein, où là on a des prises, comme j'essaye de l'expliquer dans mon livre, à l'évaluation. Donc nous avons, bien sûr, je m'inscris dans ce courant de la sociologie pragmatique qui a été initiée et par Boltanski et Thévenot et par Bruno Latour et que je remercie pour la façon dont ils ont ouvert une voie hors de la sociologie critique de Bourdieu. Et donc, il y a donc des éléments très concrets qui nous permettent de faire l'hypothèse face à une performance quelconque qu'elle est due au mérite. Et qu'est-ce que nous entendons par le mérite dans ces cas-là? Nous entendons deux choses assez différentes mais toujours liées dans la notion de mérite qui est d'une part des aptitudes ou des dons innés et d'autre part du travail et de l'effort. Et c'est cette conjonction du don et du travail qui fait la notion de mérite et qui fait sa complexité. Parce que un champion de foot, par exemple, s'il était simplement doué mais qu'il ne travaille pas, il ne ferait pas des étincelles. Et s'il travaillait beaucoup sans être trop doué, il ne ferait pas non plus des étincelles. Donc c'est cette conjonction qui est fondamentale. Or, elle est parfois contradictoire puisque le don donné de naissance relève de la chance, alors que le travail relève de la responsabilité individuelle. Et donc la notion de mérite est vraiment tirer entre ces deux polarités, cette dualité qui en fait toute la complexité et on peut faire l'historique, Yves Michaud l'a très bien fait dans son livre de 2009 sur le mérite, on peut faire l'historique de cette dualité des deux conceptions du mérite.
Bien, alors là je voudrais justement vous poser une double question à la belle Allouche. Vous référez dans vos différents livres aux alternatives, justement, à la méritocratie, notamment à l'Institut d'études politiques, où on a créé des oraux, une voie parallèle d'admission en première année. Ce sont des oraux des dossiers, des oraux, qui permettent d'évaluer non seulement le travail scolaire, mais la motivation, la capacité d'expression des étudiants, ainsi que des qualités sociales, l'écoute ou encore le leadership. Là, j'exprime une certaine inquiétude, parce que le mérite, ça peut être la compétence, la connaissance, mais là, on a l'impression qu'on va lui substituer des conduites édifiantes, conformes à la morale du jour. C'est pas forcément, disons, très attirant. Et puis alors, il y a une autre question, parce qu'on parlait des représentations, Annabelle Allouche. Mais aujourd'hui, la sociologie répète, et ça a des effets dans le discours dominant, que l'ascenseur social est en panne, vraiment. Et d'ailleurs, Luc Seidel a consacré au mot ascenseur social un article récemment dans Le Monde, où il commence en citant Jamel Debbouze. C'est pas des imbéciles, les gosses des quartiers, c'est pour ça qu'ils sont vénères, énervés, je suppose. Ils voient bien que l'ascenseur social, il est bloqué au sous-sol et qu'il pue la pisse. Mais ça, si vous voulez, si vous entrez à l'école avec cet état d'esprit, vous dites, à quoi bon, précisément, faire un effort? À quoi bon me lancer dans la course, puisque de toute façon, je suis perdant? Et là, on se dit que la paresse, le bavardage, le sabotage des cours relèvent presque de la légitime défense. On dit, de toute façon, ça ne marchera pas. Ah ben alors. Donc, vous voyez, là aussi, cela pose un problème. Et considérez-vous que, justement, les trajectoires cité par Nathalie Hennouk, d'ailleurs on pourrait même rajouter la vôtre, toutes ces trajectoires qui relèvent de l'élitisme républicain sont des exceptions destinées à confirmer la loi d'airain de la reproduction des inégalités. Annabelle Allouche.
Absolument. Et je pense que la société est absolument fascinée par ce qu'on appelle les transfuges de classe. Donc, tous les cas que vous avez cités, y compris le mien, en fait, ne sont que des exceptions qui confirment une règle inégalitaire. Après, encore une fois, je pense que le problème du transfuge de classe, c'est aussi que ça héroïse et ça individualise. Et donc, c'est extrêmement méritocratique, en fait, comme figure. On a l'impression que l'individu tel qu'en lui-même est capable, un homo clausus, comme le disait Norbert Elias, un individu tel qu'en lui-même, détaché de ses origines sociales, est capable de s'élever dans la société. Toute ascension ne peut être que collective, ne peut être accompagnée que par un collectif, y compris un collectif enseignant. Si, et seulement si, il en a les moyens matériels, financiers, et donc moyens matériels et financiers qui doivent être associés, en tout cas si on croit à une éducation publique, à l'État. Je voudrais revenir sur votre lecture du mérite, qui est finalement très social-démocrate. C'est une lecture du mérite de l'après-guerre, en fait, où on pense que le mérite, c'est une source d'émancipation. Mais le mérite, tel qu'il est associé à Parcoursup, n'est plus un mérite social-démocrate, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, je n'ai pas de moralisme dans ce que je décris. Hein. C'est un moral néolibéral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion. D'ailleurs, dans les discours liés à Parcoursup, dans la réforme de Parcoursup, le discours méritocratique disparaît complètement. Dans la réforme de la loi OR, donc orientation réussite des étudiants en 2017-2018, ce qui compte, c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'on place un étudiant à la place dont on pense, dans un contexte budgétaire tendu pour l'État, qu'il sera le plus efficace. La question du mérite ou de l'émancipation, elle est absolument absente. Elle revient dans quelques années plus tard, mais en fait, elle est complètement absente. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ce que permet aussi la sociologie, c'est ce que je dis dans mon livre, à la fois Mérite et les nouvelles portes des grandes écoles, c'est que le mérite évolue sans cesse selon des configurations institutionnelles. Et là, on est dans un mérite néolibéral. Quand on parle de mérite aujourd'hui autour de Parcoursup, on ne parle pas de la même chose que dont parlait par exemple Albert Camus, pour ne parler que d'un exemple qui a déjà été cité.
Oui, moi il me semble qu'en cherchant à délégitimer la valeur de mérite au motif qu'elle ne serait pas factuellement réalisée, la sociologie critique dont vous êtes une des représentantes, elle a plusieurs défauts. D'abord, elle répète quand même ce qui a déjà été établi depuis 60 ans. Mais bon, passons. Oui, c'est confirmé par le terrain. Mais enfin, les sciences sociales n'ont pas pour but que de répéter ce qu'on sait déjà. Mais peu importe. Deuxièmement, elle prive les moins favorisés de la ressource qui leur permettrait d'échapper à leurs conditions. Si vous enlevez la possibilité pour des jeunes issus de classes populaires de croire au mérite, c'est-à-dire d'adhérer à la valeur de mérite, puisque vous utilisez le mot croyance en deux sens. D'une part, la croyance en quelque chose, la croyance que le mérite existerait réellement, factuellement, et d'autre part, la croyance à quelque chose qui est l'adhésion à une valeur. Or, l'adhésion à une valeur est un élément fondamental qui n'implique pas forcément que les gens soient des naïfs qui croiraient au mérite comme ils croiraient en Dieu. Donc, je pense qu'il faut redonner toute sa valeur, justement, à la notion de croire à, au sens d'adhérer à une valeur, et je pense que l'adhésion au mérite, en tant que valeur, et non pas en tant qu'illusion, est ce qui permet aux défavorisés de faire les efforts qui leur permettent de monter dans l'échelle sociale. Moi, je sais très bien, vous le savez aussi d'ailleurs, qu'aujourd'hui, dans les quartiers défavorisés, les enfants des écoles, les jeunes des collèges, finissent par ne plus faire aucun effort, à force de s'entendre dire par des professeurs d'éducation, de sciences sociales, que, de toute façon, ils pourront jamais s'en sortir parce que statistiquement, c'est impossible de réussir scolairement quand on est issu d'un milieu défavorisé. Donc c'est vraiment là. Enfin, tous heureusement ne font pas cette erreur, mais malheureusement, j'ai pas mal de témoignages que certains le font. Et donc ils privent les élèves qu'il faudrait aider d'un idéal mobilisateur qui leur permettrait d'utiliser au mieux l'émulation. Et puis ça tend aussi à réintroduire le critère du rang. Hein. Vous écrivez en cela, le mérite s'impose comme une raison abstraite qui reflète le poids de l'individualisme bourgeois sur le travail des institutions depuis le 19e siècle. On a l'impression que vous préféreriez le retour aux valeurs d'Ancien Régime et aux privilèges de naissance. Il faudrait savoir. Bon, non, mais c'est quand même un peu auto-contradictoire. Ensuite, cette sociologie critique prive la société de talents qui profitent à tous, notamment en matière scientifique. Vous savez très bien qu'on ne pourrait pas faire fonctionner les institutions de recherche, les universités, si on ne recrutait pas les chercheurs au mérite et non pas au fait que ce sont, par exemple, des femmes ou des gens issus de milieux défavorisés. Je viens de lire un article qui va être publié dans 2 mois dans une revue scientifique de haut niveau aux États-Unis, signé par une trentaine de grands scientifiques qui essayent simplement de dire que la science doit fonctionner au mérite. On en est là. C'est-à-dire que des physiciens, des chimistes, des mathématiciens doivent redire une chose qui devrait nous paraître évidente, à savoir que c'est le mérite qui doit instruire la question de la sélection dans la science. Et puis, dernier souci par rapport à cette sociologie critique de la méritocratie, c'est qu'elle méprise le travail. Vous écrivez, il s'agit d'inciter les individus à des formes d'autocontrainte au travail, à l'émulation, à la compétition et in fine à la productivité. Est-ce que vous préféreriez qu'on revienne aux loisirs aristocratiques plutôt qu'au travail ?
Alors, Annabelle Allouche, vous avez tout le temps de répondre.
Oui, alors je voudrais déjà rebondir sur la question de l'adhésion à la méritocratie. Ce qui est intéressant, en fait, c'est dans mes enquêtes, je me suis intéressée beaucoup aux étudiants des grandes écoles eux-mêmes et dans quelle mesure ils croyaient à leur propre mythe. Et ce qui est intéressant, et Nathalie Hennick me cite sur le mérite comme acte de foi, c'est que c'est un étudiant de Sciences Po Paris qui vient d'être reçu à l'ENA, que je rencontre dans le cadre d'un entretien, qui me dit le mérite, c'est un acte. Est-ce que le mérite et le concours de l'ENA, l'INSP maintenant, comme espace méritocratique, existe-t-elle ? J'y crois, mais c'est plus un acte de foi qu'autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que même chez les étudiants des grandes écoles, qui sont censés, et là je cite Marie Durubella et Élise Tanré, croire le plus en leur mythe, en quelque sorte, qu'il y a une forme de caractère incontournable des inégalités, ils me disent tous, je sais très bien que j'ai eu la chance d'aller Henri IV à l'ENS parce que mes parents étaient très favorisés. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on découvre le jour du concours, c'est-à-dire qu'on découvre qu'on ne vient pas tous de la même condition sociale et dont font l'expérience les étudiants, y compris ceux des milieux défavorisés.
D'abord, prenons les élèves des milieux favorisés, d'accord. Ils ont eu la chance ou la possibilité, parce que la sélection est très forte, d'étudier au lycée Henri IV. Et, je veux dire, ils n'ont pas trouvé le diplôme de Polytechnique ou de l'école normale supérieure dans leur berceau. Ils ont travaillé comme des fous, eux-mêmes, premièrement. Donc, le mérite vaut aussi pour eux. Il ne faut quand même pas exagérer. Ah, vous êtes bourgeois, vous êtes... Non, ça ne marche pas
Bien
comme
sûr.
Ça, ça n'a jamais.
C'est une probabilité, pas un déterminisme total. Et évidemment, moi, avec mes étudiants, je valorise la question du travail, bien sûr. Et c'est pour ça que toute l'éducation nationale est fondée, en fait, comme principe organisateur sur le mérite. C'est que j'aurais du mal à dire à mes étudiants, ne travaillez pas.
Franchement,
mon
oui.
problème,
vous
mon problème, tort. C'est la mise en concurrence comme mode de régulation des individus. Les uns contre les autres et pour accéder à un diplôme, sachant que le diplôme, quelle que soit la nature de ce diplôme, protège du chômage et tous les étudiants le savent.
D'abord, il ne s'agit pas simplement de quand on veut se candidate à une grande école, on veut entrer dans cette grande école avant de penser simplement au travail qu'on aura. Et puis alors, vous oubliez, me semble-t-il, Annabelle Ablouche, les cas aussi qui existent de déclassement. Parliez des transfuges de classe, terme effectivement très employé aujourd'hui. Je suis assez étonné, je ne suis pas sûr que, en effet, ni Peggy ni Camus ne se pensaient comme des transfuges de classe, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a aussi des formes de déclassement. Il y a des élèves qui naissent dans des milieux favorisés, qui ne réussissent pas à l'école, pas aussi bien que le voudraient leurs parents, que leur permettrait leur milieu, et qui en subissent les conséquences. Ça, il faut aussi quand même
bien
tenir
sûr.
Compte de ce phénomène.
Et la sociologie, bien sûr, je pense aux travaux de Louis Chauvel, par exemple, en a tenu compte. Le sentiment de déclassement ou de Camille Peny est fort, et notamment pour des classes moyennes, ou ce qu'on appelle parfois les petites classes moyennes, catégories intermédiaires et employées, qui peuvent connaître des sentiments de déclassement. Et ce qui est intéressant avec Parcoursup, c'est que la réforme, en quelque sorte, du système éducatif a entraîné un sentiment de déclassement, ne s'accompagne pas forcément de réalité, y compris parmi ceux qui étaient désignés jusque-là comme les gagnants de la méritocratie, donc justement les classes moyennes et supérieures. Et c'est ça aussi qui crée dans la presse, par exemple Le Point, Valeurs Actuelles, etc., tout un ensemble d'articles sur ces fameux étudiants qui ont 20 sur 20 et qui n'arrivent pas à rentrer à Henri IV, etc. Je pense que la difficulté, c'est aussi une représentation de la réussite sociale qui est vraiment, encore une fois, limitée à une forme de réussite scolaire, comme si entrer à Henri IV, c'était la seule façon de réussir dans sa vie. Évidemment, c'est absolument pas le cas.
Oui, moi, je trouve qu'il faudrait quand même sortir un peu de la question purement scolaire, parce que la question du mérite va bien au-delà de la question scolaire, même si la question scolaire est une sorte d'emblématisation que tout le monde rencontre dans sa vie, puisqu'on a tous été à l'école. Bon. Mais le mérite, ça va bien au-delà. Comme je l'ai dit, ça implique des questions fondamentales de justice, hein, et ça implique aussi de sortir de cette forme de réductionnisme qui consiste à mettre le mot mythe ou le mot illusion ou le mot idéologie sur tout ce qui relève des valeurs, en fait, et du coup à s'interdire de prendre au sérieux cette question des valeurs. Si Lévi-Strauss avait décidé que les mythes qu'il étudiait dans les sociétés primitives n'étaient que des mythes, des illusions destinées à reproduire le pouvoir du chef, il ne les aurait tout simplement jamais étudiés, jamais compris. Donc je pense que la sociologie a autre chose à faire que de simplement essayer systématiquement de rabattre les valeurs sur les faits et de critiquer la mauvaise réalisation des faits, qui est une chose qui politiquement est parfaitement légitime, mais qui, en sciences sociales, prend un peu trop de place aujourd'hui et empêche le travail de fond sur, par exemple, l'expérience des valeurs. Et vous faites un très beau moment dans votre livre sur le mérite où vous interrogez un jeune de 17 ans en lui demandant « qu'est-ce que c'est pour toi le mérite ?» Il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit « le mérite, pour moi, c'est ma mère. » Et il se met à pleurer. Et vous faites un développement très juste sur la question de l'émotion. C'est vrai que le rapport au mérite est un rapport très émotionnel. Et pourquoi ? Parce que les émotions sont constitutivement liées aux valeurs. Et donc, l'émotion, c'est le signe qu'une valeur a été soit mise en œuvre, soit transgressée. Et donc, cette question du lien fondamental entre ces questions de justice par le mérite et la dimension fortement émotionnelle, vous passez à côté si vous vous contentez de dire que tout ça est un mythe ou une illusion.
Annabelle Ablouche.
Je pense qu'il faut rester modeste, et les sciences sociales et la sociologie en particulier apprend à rester modeste. Il ne faut pas dire ce que doit être, on ne peut pas dire en tant que sociologue ce que doit être ou ce que ne doit pas être la sociologie. La sociologie, c'est un ensemble de réflexions théoriques fondées sur un travail empirique, et la sociologie, je suis très mal à l'aise avec le fait qu'on dise il faut ou il ne faut pas qu'elle soit de telle ou telle façon.
Alors simplement, restons-en là sur la question de la sociologie, mais Je reviens à Sciences Po, Annabelle Allouche. Il y a maintenant donc des épreuves orales pour certains candidats, élèves potentiels, pour élargir le recrutement. Et on a le sentiment, à Sciences Po comme ailleurs, que la culture générale est de plus en plus marginalisée. C'est-à-dire, pour en finir avec le privilège des héritiers, on déprécie, on dévalue, on dégrade l'héritage. Que faire de l'héritage, finalement? À quoi ça sert? On n'en a pas besoin. Et l'esprit démocratique, on renforce ce sentiment, parce que chacun peut avoir ses jugements, tous les goûts sont dans la culture. Dès lors, le tout culturel remplace la culture générale. C'est quand même un mouvement de plus en plus fort. C'est-à-dire que depuis Bourdieu, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis 1964, l'apparition des héritiers. Et j'ai l'impression que les héritiers sont voués à disparaître. Et la bourgeoisie cultivée va bientôt rejoindre l'aristocratie dans les poubelles de l'histoire grâce à ce qu'on veut faire aujourd'hui de l'école, grâce à l'idée qu'on se fait de l'accueil à l'école. Annabelle Allouche.
Sur la question de la culture générale, ce qui est intéressant, c'est pas seulement une critique bourdieusienne qui a été mise en œuvre dans les institutions, c'est aussi une question de coût et d'efficacité. Pourquoi les épreuves de culture générale ont disparu désormais dans un certain nombre de concours? C'est aussi parce que les épreuves écrites coûtent cher. Il faut louer des salles d'examen, il faut louer des surveillants, il faut payer les gens qui corrigent les copies éventuellement. Donc, en fait, il y a une question de coût budgétaire qui accompagne cette critique bourdieusienne qui a effectivement été intégrée par les institutions. Après, il y a d'autres modes aussi. Il y a eu un changement dans les modes d'évaluation de cette culture générale qui passe par d'autres types d'épreuves et d'autres types de disciplines, et notamment les mathématiques, qui ne sont pas moins inégalitaires. Contrairement à ce que disaient Bourdieu et Passeron, les mathématiques, ce n'est pas quelque chose qui est pur. En parlant du concours de Polytechnique, qui me semble que vous connaissez bien, vous avez un sociologue. Comme Pierre, puisque vous y avez...
J'ai enseigné, mais je me suis jamais présenté. Je n'avais pas la capacité.
Mais un sociologue comme Pierre-François a étudié le concours de Polytechnique et les épreuves de mathématiques et les rapports des épreuves de mathématiques à Polytechnique. Et ce qu'il dit, justement, c'est que, en fait, les membres du jury recherchent justement une forme de raisonnement qui soit esthétique, en quelque sorte, qui soit beau, et le valorise par une bonne note plutôt qu'un raisonnement purement scolaire ou un mauvais raisonnement, même si il arrive finalement au bon résultat. Donc même en mathématiques, vous avez des formes d'inégalité qui se jouent entre une posture, comme disait Bourdieu, un peu aristocratique, hein, de distance au savoir scolaire, par rapport à un savoir scolaire au sens strict du terme.
Oui, oui, vous avez parlé de l'héritage, et je pense que c'est un point nodal par rapport à la question de l'attribution de valeur aux personnes, parce que on juge très souvent les personnes en fonction de cette question de l'héritage. Or, l'héritage, c'est quelque chose de très ambigu, puisque il n'est pas inné, il n'est pas acquis, mais il est transmis. Hein. C'est vraiment la question de la transmission. Et du même coup, il est acceptable en tant que chance, hein, c'est le régime de la grâce, en fait, on a eu la grâce d'hériter, mais il devient injuste s'il est vu en tant que privilège immérité, hein, puisqu'il n'a pas été acquis par l'individu. Et du même coup, dès lors qu'il est perçu comme un privilège, il demande à être, pour ainsi dire, racheté par le travail et par l'effort, ou encore par le don caritatif, hein, d'où les fameux dons des héritiers, pour être supportable au regard de l'exigence de justice, supportable tant par l'intéressé, l'héritier, que par autrui. Et on retrouve là une dimension fondamentale dans la question du mérite, dont on n'a pas encore parlé, qui est la question de la grâce. Puisque pendant très longtemps, on a opposé plus ou moins explicitement l'ascension par le mérite à l'ascension par la grâce. La grâce, c'est ce qui vous est donné sans que vous l'ayez forcément mérité, mais qui est accepté par tout le monde comme quelque chose de légitime. Les vedettes du sport, les vedettes de la chanson, le personnel politique, etc. Leur supériorité, la supériorité qui leur est attribuée, l'admiration qui leur est vouée, peut se justifier dès lors que l'on considère que c'est une grâce qui leur est donnée, mais cette grâce, elle doit pouvoir se mériter du point de vue de la personne, par le don qu'elle va faire. Alors, le don de ses œuvres en ce qui concerne les artistes, et le don de sa présence en ce qui concerne les vedettes. Et c'est cette question du don et du contre-don qui permet d'inscrire la question de la grâce imméritée dans une forme de justice qui va lui permettre de se relier à cette exigence d'équité que le mérite permet d'obtenir.
L'héritage, c'est pas simplement la grâce. L'héritage, c'est le fait d'avoir grandi au milieu des livres, d'aller pour un enfant à la Comédie française, de prendre des leçons de piano, et c'est vu et c'est perçu de plus en plus maintenant, me semble-t-il, comme un délit d'initié. Ce qui montre bien que, je crois, l'héritage n'a plus bonne presse, jusque dans l'institution chargée de le transmettre à tout le monde. Vous aurez le mot de la fin.
Oui, alors je voudrais parler évidemment de Thomas Piketty, qui a aussi beaucoup travaillé sur la question de l'héritage. Et ce qu'il souligne justement, c'est que l'héritage, c'est pas seulement un héritage culturel, ça peut être aussi, et c'est de plus en plus, un héritage patrimonial. Ce qui fonde les inégalités, c'est non seulement l'école, mais aussi l'inégal accès à un patrimoine qui est inégalement transmis.
Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes deux pour cette discussion animée. Le titre de vos livres, Nathalie Hennick, La valeur des personnes, preuve et épreuve de la grandeur. Il est publié aux éditions Gallimard, dans la Bibliothèque des idées. Et Annabelle Allouche, vous avez publié Mérite aux éditions Anna Boza et aux Presses universitaires de France, Les nouvelles portes des grandes écoles. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Geoffrey Marianne. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Faut-il avoir peur du wokisme ?» Mes invités seront Jean-François Bronstein et Albert Augien. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.